Laudetur Jesus Christus.
Journée de la Terre, le pape interpelle chacun à devenir aujourd'hui des bâtisseurs de la maison commune, à préserver la planète. C'est ce que tâchent de faire 23 moines en France sur l'île de Lérins. Nous irons au large de Cannes en début de journal. Non aux marchands de mort qui alimentent les guerres, le pape prêche à contre-courant du monde. Selon des chiffres publiés aujourd'hui par l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm, plus de 2400 milliards de dollars ont été dépensés dans la défense en 2023. Autre sujet à la une ce soir, à 3 mois des élections européennes, les épiscopats appellent à réfléchir sur les valeurs communes du vieux continent. Le christianisme tient une place centrale, dit-il. Et puis enfin, nous irons aux Philippines, où des exercices militaires ont commencé ce lundi.
Radio Vatican, le journal, Marie Duhamel.
Bonsoir à tous. Devenez des artisans, des bâtisseurs de la maison commune. L'appel donc du pape François ce lundi à l'occasion de la journée de la Terre, une planète qui, regrette-t-il, tombe en ruine. Sur les réseaux sociaux, François souligne de nombreuses richesses léguées par sa génération, mais sans avoir su préserver ni la planète ni la paix. En cette journée de la Terre, commençons ce journal par un voyage sur l'archipel de Lérins. C'est au large de Cannes, dans le sud de la France. S'y trouve le monastère Saint-Honorat, fondé il y a 16 siècles. 23 moines cisterciens Il travaille dans 8 hectares de vignes et d'agriculture biologique. Modèle vertueux, l'île monastique a néanmoins besoin d'aide et elle en a reçu récemment en rejoignant un programme international d'aide au développement durable des petites îles. Un réveil de conscience pour les moines, nous explique frère Vladimir Gaudra, l'abbé de Lérins.
Ça nous a donné l'occasion de réfléchir avec des personnes qui avaient les problématiques insulaires, qui sont des problématiques particulières dans le monde entier et en particulier en Europe, parce qu'on a fait partie, on continue dans un groupe de réflexion qui regroupe des îles européennes, de la Norvège à la Croatie. Et puis, ils ont une puissance de réflexion, de suggestion, de nous aider à monter des dossiers et à réfléchir, qui est très précieuse. Je vous donne un exemple, alors ça c'est vraiment lié à la biodiversité. Nous envisagions de replanter des oliviers et donc c'est grâce à eux qu'on a été en contact avec une association qui s'appelle le Conservatoire Méditerranéen Partagé, qui nous permet de replanter des oliviers d'espèces anciennes, protégées un peu en voie de disparition et spécifiques de cette région. Non seulement ils nous donnent l'idée, mais ils nous aident à le faire, procurant des financements et des aides pour le faire, donc c'est très précieux. La vie monastique, Laudato Si, et cette association insulaire, les trois sont vraiment complémentaires.
Des propos recueillis à Lérins par Delphine Allaire et demain, frère Vladimir Gaudra sera l'invité de notre dossier. Et replongé dans la brutalité du monde, François dénonce sur X ses guerres offertes en héritage. Le Saint-Père n'a de cesse d'appeler, on le sait, au désarmement à contre-courant d'une hausse des dépenses mondiales en matière de défense. En effet, plus 6,8% en 2023 par rapport à 2022, un chiffre de l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm, Jean-Benoît Rel.
Oui Marie, les chiffres de 2023 sont absolument inédits. Les dépenses militaires sont chiffrés l'an dernier dans le monde à 2443 milliards de dollars selon le dernier rapport du CIPRI. Et cette hausse se constate sur tous les continents. En Europe d'abord, avec la guerre en Ukraine, les deux protagonistes ont disposé en 2023 d'environ 100 milliards de dollars chacun. Au Proche-Orient ensuite, le rapport pointe un réarmement de tous les pays, notamment lié au refroidissement des relations entre les pays arabes et Israël. Deux exemples, plus 4% en Arabie Saoudite, le 5e budget mondial, plus 24% pour l'État hébreu au 15e rang mondial. En Afrique ensuite, au Soudan du Sud, mais également en République démocratique du Congo, qui voit ses dépenses militaires plus que doublées en un an dans un contexte de lutte entre le gouvernement et des groupes armés non étatiques. Partout, les escalades des tensions géopolitiques se ressentent sur les budgets militaires. Par exemple en Chine, deuxième plus gros budget avec presque 300 milliards de dollars. Une hausse qui force les voisins comme le Japon ou Taïwan à s'aligner et à gonfler eux aussi l'argent alloué à la défense militaire. Mais le champion hors catégorie reste les États-Unis, avec plus de 900 milliards de dollars en 2023, soit plus d'un tiers des dépenses militaires mondiales.
Merci Jean-Benoît. Et puis ce sont les bombes les plus menaçantes. Ce soir, la Pologne se dit prête à accueillir des armes nucléaires sur son territoire si l'OTAN, dont elle est membre, décidait de renforcer son arsenal sur son flanc oriental, face par exemple au déploiement par la Russie de nouvelles armes à Kaliningrad et en Biélorussie. En Russie, le porte-parole de Meta, la maison mère d'Instagram, Facebook ou WhatsApp, Andy Stone, a été condamné par contumace à 6 ans de détention en colonie pénitentiaire. financière. Peu après le début de l'offensive en Ukraine, il publiait un post sur les réseaux sociaux X justifiant les actions agressives contre les militaires russes. En pleine guerre à Gaza, le chef du renseignement militaire israélien a démissionné. Le général Aharon Aliva, 38 ans de carrière militaire, est la première personnalité à quitter son poste depuis l'attaque du 7 octobre. Il dit assumer sa responsabilité dans l'échec à prévenir l'incursion du Hamas. Ce lundi, alors que commence Pessah, la Pâque juive, une chaise sera laissée vide autour de la table ce soir lors du repas rituel de Seder pour ne pas oublier les otages. 129 personnes sont encore détenues par le Hamas à Gaza, l'enclave palestinienne où des bombardements se poursuivent sans tenir compte d'aucun calendrier. Et toujours au Moyen-Orient, le président turc Recep Tayyip Erdogan effectue sa première visite aujourd'hui, visite d'État depuis une décennie en Irak, accueilli par 21 coups de canon à Bagdad. Une vingtaine d'accords ont été signés dans les domaines de l'énergie, de l'agriculture, de l'eau ou encore de la sécurité. Le président turc a d'ailleurs rappelé à l'Irak ses responsabilités face au terrorisme et en particulier au PKK. Et puis pendant que le chef d'État turc est en Irak, le président allemand est arrivé à Istanbul. Frank-Walter Steinmeier est en Turquie pour célébrer le 100e anniversaire de l'établissement de relations diplomatiques entre Berlin et Ankara dans un contexte plus tendu entre les deux pays et plus généralement entre la Turquie et l'UE. Un mois et demi des élections européennes, les évêques de la Comessée invitent aujourd'hui à prendre le scrutin au sérieux. Réunis à l'occasion de leur assemblée de printemps en Pologne, les responsables des épiscopats de l'UE saluent aussi le processus d'élargissement de l'Union, un processus qui nécessite néanmoins des réformes et demande de réfléchir une nouvelle fois sur les valeurs communes du vieux continent. Olivier Bonnel.
Les futures adhésions à l'Union européenne ne sont pas seulement une nécessité géopolitique pour la stabilité de notre continent, explique la Comessée, mais un message fort d'espoir pour les citoyens qui souhaitent vivre dans la paix et la justice. L'invasion russe de l'Ukraine a généré une nouvelle dynamique dans l'élargissement de l'Union, notent les épiscopats européens. Si les candidats doivent continuer à poursuivre leurs nécessaires réformes structurelles, la crédibilité du processus d'élargissement nécessite aussi des mesures concrètes de la part de l'Union pour se préparer à accueillir de nouveaux membres, explique-t-il encore. Pour la Comessée, il est fondamental d'actualiser l'idée d'une Europe unie, enracinée dans une solidarité concrète et de redécouvrir avec une fidélité créative les grands idéaux qui ont inspiré sa fondation. Les évêques européens déplorent donc une Europe qui étale parfois trop le spectacle de ses divisions. Durant cette assemblée en Pologne, la Comessée a aussi rappelé combien l'Église catholique avait accompagné le processus d'intégration européenne depuis ses débuts. À quelques semaines d'un scrutin crucial pour le continent, les évêques invitent aussi les citoyens européens à prendre au sérieux ces élections. Il y a 10 ans, rappelle-t-il, l'Europe s'est enrichie de 10 nouveaux États membres. Aujourd'hui, dans un monde fragilisé et multipolaire, la vision d'une Europe unie et fraternelle, irriguée par le christianisme, est plus que jamais nécessaire.
Olivier Bonnel et puis Bruxelles qui ouvre une enquête visant une nouvelle application, la nouvelle application TikTok Lite. Bruxelles menace de suspendre dès jeudi la fonctionnalité du réseau social chinois qui récompense le temps passé devant les écrans au risque d'augmenter l'addiction. Les services de renseignement européens sur le qui-vive, notamment en Allemagne après l'arrestation il y a quelques jours de 2 hommes accusés d'avoir voulu commettre des actes de sabotage contre l'aide à l'Ukraine pour le compte de Moscou. Et bien voilà que 3 personnes sont arrêtées aujourd'hui dans l'ouest du pays, accusées cette fois d'espionnage au profit de la Chine. Coup d'envoi d'exercices militaires aux Philippines auxquels participent la France et les États-Unis ce lundi dans un contexte tendu en mer de Chine méridionale. Les accidents se sont multipliés et la tension ne cesse de grimper entre les armées philippines et chinoises. Pékin revendique 90% de la zone, dont la petite île de Titou, sur laquelle Manille a rétabli un petit campement de civils pour faire valoir ses revendications territoriales. À 500 km des côtes philippines et à plus de 1000 de la Chine continentale, 200 Philippins vivent dans l'ombre pesante des navires chinois. Reportage de Jean Labruyère.
Une piste d'atterrissage en pleine mer. Voilà à quoi ressemble l'île de Titou depuis le hublot d'un avion de l'armée philippine. À Pagasa, comme l'appellent les locaux, tout est géré par les militaires.
Pour nous, c'est mieux de vivre avec les militaires. Cela nous fait sentir en sécurité.
Anna Reabania entame sa 15e année sur l'île.
Nous sommes encouragés à vivre ici parce que l'on reçoit du riz, de la nourriture, un logement et de l'eau gratuitement. C'est cela qui nous fait rester.
En plus des subventions, les habitants survivent grâce à la pêche, rendue plus difficile ces dernières années par l'omniprésence des bateaux chinois.
Je me suis habitué aux Chinois et je n'ai plus vraiment peur d'eux. Comme la pêche est mon activité principale, je les vois tous les jours. Mais on évite les zones où ils sont rassemblés pour limiter le risque d'accident. Roni, l'un des plus vieux habitants de l'île, se dit investi d'une mission.
Nous sommes plus que des civils parce que nous avons un devoir à remplir envers notre pays. Nous sommes des gardiens du territoire. C'est notre devoir de faire savoir au monde entier que des Philippins vivent ici.
Une résistance civile qui semble bien limitée face aux moyens démesurés de Pékin. Jean Labruyère, de retour de Titou pour Radio Vatican.
C'est ainsi que s'achève ce journal. Excellente soirée.